Bonsoir à chacun.
Nous allons partager un texte dans Jean chapitre 9. Il s'agit d'un des miracles que Jésus a fait et qui sont rapportés par l'évangéliste Jean. Jean n'a pas rapporté beaucoup de miracles comme les autres, comme Matthieu, Marc et Luc, mais il en a rapporté 8. Et là, il s'agit d'un de ces miracles. Et par contre, Jean, quand il raconte un miracle, il raconte aussi beaucoup de choses à côté pour expliquer ce que Jésus voulait dire au travers de ce miracle. Jésus ne se contentait pas seulement de guérir. Déjà, c'est bien qu'il guérisse. On est d'accord. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais celui-là qui a vécu la guérison, il était d'accord. Il était aveugle et il est devenu quelqu'un qui pouvait voir ce qu'il y avait autour de lui. Mais Jésus ne s'est pas contenté seulement de le guérir. Il a aussi profité de l'occasion pour faire toute une leçon à ceux qui l'entouraient, et c'est ce qu'on va partager ce soir. Ce soir, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, et même si ça vous dérange, qu'on puisse lire le chapitre 9 en entier, de l'évangile de Jean. Jean chapitre 9, verset 1er, et je crois que cette lecture seulement est déjà la partie la plus importante du message. Souvent, on essaye de lire rapidement les textes, et puis après d'expliquer, parce qu'on a préparé toutes sortes de belles choses. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va partager ce soir. C'est pour ça que j'avais à cœur de véritablement lire toute cette histoire en entier. C'est tout le chapitre 9. Jean, chapitre 9, verset 1. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. » Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » C'est le nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble !» Et il disait lui-même « C'est moi !» Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi » J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvrai la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas !» Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents, et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. » Car il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, il parle de Jésus, que nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il donc fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui dirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » et le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait été chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. » Un beau passage avec une histoire particulière qui est presque avec des pointes d'humour quand on le lit avec attention. La façon dont les dialogues prennent place, c'est incroyable de voir en tout cas une histoire qui nous parle que Jésus guérit. Et quand je lis cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ce moment dans ma vie où j'ai eu l'occasion, ce privilège de voir devant mes yeux, alors que j'étais tout petit, quelqu'un qui est au nom du Seigneur Jésus pour lequel on a prié et qui a ouvert les yeux également. J'ai pu voir des larmes couler de ses yeux parce qu'il était en train de découvrir ce monde qui l'entourait alors qu'il était totalement plongé dans les ténèbres à cause de sa cécité. Et parce qu'il a cru en la foi, il a mis sa foi en Jésus-Christ, simplement, cet homme a été totalement guéri. Et c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. C'est pour ça que quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler cette histoire, de me dire que oui, le Jésus qu'on prêche, le Jésus qu'on adore, le Jésus dont on parle ce soir et tous les soirs, c'est ce Jésus qui guérit. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que par rapport à la guérison, à la limite, il n'y a que deux versets qui en parlent vraiment, de comment ça a pris place la guérison. Par contre, tout le reste, je ne sais pas si vous avez vu, il y a combien de versets ? 41 versets, on enlève deux, il y a 39 versets donc, qui parlent, pas de la guérison, mais qui parlent de tout ce qui, les conséquences de cet homme a été guéri, et il y a eu toutes sortes de conversations qui ont pris place. J'ai relevé qu'il y a eu 7 dialogues différents. Jésus avec ses disciples, les voisins avec l'homme, les pharisiens avec l'homme, les parents avec les pharisiens avec l'homme à nouveau, Jésus et l'aveugle, Jésus et les pharisiens. 7 dialogues. Et dans chacun de ces dialogues, il y a une progression qui se fait et on se rend compte que grâce à ces échanges, on est amené à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. En tout cas, il y a quelque chose qui est évident, c'est que il y avait cet homme qui était aveugle, né au début et à la fin, il y avait un homme qui se prosternait devant le Seigneur. Et il y a eu tout un processus au milieu pour amener un aveugle né à un homme qui se prosterne, qui adore Jésus-Christ et qui reconnaît que lui, il est le Messie. Tout un processus qui a pris place. Et simplement en regardant dans ce passage, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui est totalement accessible. Il n'y a rien de compliqué. C'est accessible à quelqu'un qui a la simplicité de la foi, simplement. Première chose, cet homme, comment il était perçu par les autres. Ce miracle de Jésus, ça nous parle du miracle de la vision, des yeux qui s'ouvrent, et surtout des yeux spirituels. Bien sûr, l'image physique, elle est là pour nous montrer à nous que Jésus veut nous ouvrir les yeux de manière spirituelle. Et la première chose que nous voyons au travers de tous ces dialogues, c'est qu'il y a les gens, ils pensaient beaucoup de choses sur cet homme. Et chacun avait son opinion, plus ou moins. Si on prend les disciples, les premiers à parler, pas forcément les plus intelligents. Et ils avaient beaucoup à apprendre. Et nous, qui sommes les disciples du Seigneur, ne nous considérons pas comme au-dessus des autres. Bien au contraire, croyons que le Seigneur veut, jour après jour, nous apprendre. Et parce que ces disciples-là, qui avaient beau être au contact de Jésus, qu'est-ce que ça a été leur parole ? Seigneur, c'est qui a péché dans sa vie ? Est-ce que c'est cet homme ? Ou est-ce que c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Seigneur, on a une bonne question pour toi. Et j'ai une bonne question pour vous aussi. Et il faut que vous prêtiez attention à la formulation. Est-ce que c'est à cause du péché que cet homme est aveugle ? Alors, oui ou non ? Aidez-moi là. Qui est pour oui ? Allez. Il y en a quelques-uns. Tous les autres, vous êtes pour non, vous ne vous prononcerez pas. Hein ? Et je vais vous répondre oui. Parce que j'ai dit du péché. Et je fais bien la différence entre est-ce que cet homme est aveugle à cause du péché ou à cause de son péché. Vous voyez la différence ? Parce que le péché qui est rentré dans le monde par la désobéissance d'Adam a entraîné entre autres comme conséquence qu'il y ait les maladies, il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a le travail difficile, etc. Et le fait que cet homme soit né aveugle, c'est la conséquence du péché de manière générale. Mais ce n'est pas la conséquence de son péché à lui. Parce que déjà, quand il est né, ben, il n'a pas péché. Il était de nature pécheresse, mais il n'avait pas péché. Et ses parents, est-ce que c'est là, à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Non. Ce n'est pas communicatif comme ça. Par contre, quelqu'un qui va rester dans son péché et qui va avoir des enfants, ben, va communiquer à ses enfants cette habitude qu'il a pris de péché aussi. Et je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui croyait que parce que quelqu'un lui avait fait du mal dans son enfance, eh bien elle subissait la conséquence du péché de l'autre. Et elle devait demander pardon à la place des autres personnes. Alors que c'est elle qui avait subi le mal. Ça, c'est pas vrai. Dieu nous demande de rendre compte de notre péché, de nos œuvres, de nos actes d'injustice propres qui sont à nous. Et il suffit de pas longtemps dans la vie. C'est vrai, quand on arrive bébé, on est innocent, mais il suffit de pas longtemps pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, on est pécheur. Les mensonges, ils commencent très, très tôt. Le fait de vouloir prendre ce qui ne nous appartient pas, ça commence très tôt. Et je crois que quand on a été enfant, on a vécu au moins une de ces choses. Mais, en tout cas, pour les disciples, ils avaient besoin de savoir est-ce que c'était lui, est-ce que c'était ses parents. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus, il ne s'intéresse pas à savoir qu'est-ce qui a provoqué la maladie. Lui, il s'intéresse à comment la maladie va être réglée. Ça, c'est le point de vue du Seigneur. Et ce soir, on a besoin d'avoir ce point de vue-là. Et peut-être ce soir, quelqu'un il traverse dans une difficulté ou même une maladie. On a besoin de voir le point de vue du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Pour lui, c'est une occasion de voir la gloire de Dieu briller. La lumière de Dieu venir éclairer une situation particulière. Regardez sa parole au verset 3. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'est une occasion de voir la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que nous avons ce regard sur les situations que nous traversons, quelle que soit la difficulté? Est-ce que nous avons ce regard de dire, ben oui, c'est peut-être l'occasion que Dieu puisse intervenir dans ma situation, poser sa main? Et je remarque aussi quelque chose, c'est que Jésus, quand il a vu cet homme dans sa misère, il a commencé à s'arrêter et à le regarder un peu plus intensément. On se rend compte que le dialogue, ils l'ont fait parce qu'ils étaient en train de s'arrêter pour pouvoir faire du bien à cet homme. Juste après, il lui parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de croiser quelqu'un qui avait un handicap? Et vous savez, souvent, quand on est dans ces situations, on est un peu mal à l'aise, on est un peu gêné, parce qu'on ne sait pas trop s'il faut regarder, s'il ne faut pas regarder, et on ne sait pas comment regarder les personnes. Jésus, lui, il savait comment le regarder. Il a regardé avec un regard d'amour et de compassion, parce qu'il voulait l'aider, cette personne. Et il voulait lui apporter son secours. Et la deuxième chose qu'il a vue dans cet homme, déjà il a vu l'occasion de voir la gloire de Dieu briller, mais il a vu aussi un homme qui était obéissant à la foi. J'aime cette expression, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le livre des Actes, il est dit qu'une foule de sacrificateurs se sont donnés au Seigneur, et puis ils étaient obéissants à la foi. J'ai trouvé que ça s'appliquait bien à cet homme. Parce que nulle part on voit qu'il a fait preuve de foi. C'est pas dit qu'il a eu la foi. Par contre, on voit qu'il a tout ce que Jésus lui a demandé de faire, il a fait. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas mis ses conditions. Il n'a pas dit attends un peu ou attends je vais faire un sacrifice ou je vais chanter un cantique. Ce que Jésus lui a demandé de faire, il a fait. Et le résultat, c'est qu'il a été guéri. Quelqu'un qui a été obéissant à la foi, obéissant aux paroles de Jésus. Est-ce que la foi ne vient pas de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, justement? Et ce soir, simplement, si nous mettons notre foi en Jésus, eh bien, nous pouvons être guéris. Guéris intérieurement, guéris physiquement, peu importe. Le Seigneur est tout-puissant. En tout cas, le secret de l'action de Dieu dans notre vie, c'est la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. Pour ses voisins, comment le considérer ses voisins? Une des paroles qui m'a frappé, c'est que pour eux, c'était celui qui était assis et qui était mendiant. Ah, c'est merveilleux ça, comme situation. Assis toute la journée et en plus mendiant, même pas capable de pouvoir pourvoir à ses besoins. Et on se demande même ses parents, qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire? Parce qu'on sait qu'il a des parents. Mais on se rend compte qu'il était même pas... ses parents ne s'occupaient même pas de lui puisqu'il était mendiant. Il y avait un moment dans la famille où ils en avaient eu marre de supporter peut-être quelqu'un qui était handicapé, qui ne servait à rien. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont dit « débrouille-toi, maintenant va-t'en de chez nous, tu es plus un fardeau qu'autre chose ». Et cet homme s'est retrouvé là tout seul, obligé d'aller mendier son pain. Et le Seigneur Jésus connaissait tout ça, parce que le Seigneur Jésus connaît le cœur et connaît nos situations. Il n'a pas besoin qu'on lui décrive. Il sait notre misère, il sait à quel point on peut avoir mal dans le cœur. Ce que les hommes ne voient pas, lui le voit. Et il sait par contre aussi comment venir
au secours de nos besoins, tout simplement. En tout cas, pour ses voisins, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de connaissances. Parce que quand on lui pose des questions, il ne savait pas trop si c'était lui ou pas. Il se demandait, mais il lui ressemble, on dirait que c'est lui, mais ce n'est pas lui parce qu'il a les yeux ouverts. Et lui, il dit, ben oui, c'est moi. Il savait déjà une chose, il savait que c'était lui. C'est bien. Il savait qu'il avait été guéri. Ça, il ne pouvait pas en douter. Mais par contre, il ne savait pas grand-chose de plus. Quand on lui dit, mais il est où cet homme qui t'a guéri? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir un doctorat en théologie pour pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie? Pose la question. Qui a un doctorat de théologie ce soir? Parce que si vous l'avez, je vous laisse la place. Moi non plus, je n'en ai pas. Hein. Mais par contre, je peux vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et ça, c'est facile parce que c'est quelque chose de tellement personnel, tellement vrai, tellement palpable pour moi que je peux vous l'exprimer de la meilleure des manières. Et cet homme, c'est ce qu'il a vécu. Il ne savait pas grand-chose, il n'avait pas beaucoup de connaissances théologiques, de connaissances sur la religion, etc. Par contre, il savait qu'il était aveugle et que maintenant, il voyait. Et ça, il pouvait le raconter avec assurance, avec foi, avec vérité, avec efficacité, parce que c'était quelque chose qu'il avait vécu. Pour les pharisiens, qu'est-ce que c'était cet homme ? Quand il a commencé à leur expliquer la situation, en plus eux, ils étaient très à cheval sur le sabbat, qu'est-ce qu'ils ont commencé à avoir? Des discussions. Ben, les uns, ils disaient, mais non, Jésus, il n'a pas respecté le sabbat, c'est un pécheur. Les autres, ils disaient, mais un pécheur qui guérit un homme, c'est pas possible. Et ils étaient embêtés avec cette histoire. Et pour les pharisiens, cet homme, c'était un témoin gênant, parce que le fait qu'il soit là devant eux, ça leur crée un problème. C'est pour ça qu'ils ont mis même en doute sa guérison et ils sont allés voir les parents directement pour savoir de quoi ils retournaient. Est-ce que c'était vraiment vrai qu'il était aveugle cet homme ou c'était un commenté de Jésus pour faire une bonne réputation? Et vous savez que souvent, quand Dieu agit dans une vie, il y a des choses qui sont dérangeantes. Il y a des personnes même qui sont dérangées parce que Dieu agit dans notre vie. Pourtant, c'est des choses bénies, des choses incroyables qui se passent. Mais ceux qui ne veulent pas être dérangés dans leur religion, dans leur petit train-train spirituel, ils ne vont pas supporter ces choses-là. Les pharisiens, ils avaient l'habitude, le sabbat, surtout, il ne fallait pas faire toutes sortes de travail. Et Jésus, lui, il fait de la boue. Ah là là, quel sacrilège! Quelle chose malheureuse! Mais il ne regarde même pas au résultat qu'un homme aveugle était guéri. La joie que ça a procuré dans cet homme. Et que nous soyons religieux ou pas, quand Dieu agit dans notre vie, il y a des choses qui nous dérangent, mais c'est pour notre bien. Je pensais à cette vérité. Quelque chose qui m'est arrivé, c'est que quand j'étais en Afrique, les docteurs nous ont dit surtout, avant qu'on parte en Afrique, ils nous ont dit surtout prenez tous les jours de la Nivaquine, parce que là-bas, il y a les moustiques et vous pouvez attraper le paludisme. Vous savez, c'est une maladie qui touche là-bas, beaucoup de personnes. Et tous les jours, on devait prendre le médicament, la Nivaquine, pour ceux qui connaissent, qui sont médecins ou infirmiers, vous connaissez ça. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le goût que ça a, la Nivaquine. Si j'en avais eu, j'aurais fait le test sur quelqu'un là ce soir. Heureusement pour vous, j'en avais pas. Parce que c'était quelque chose qui était horrible. Horrible, je n'ai gardé un souvenir horrible. Moi, je m'étais d'ailleurs entraîné à le prendre sans que ça touche la langue. Quelque chose de... C'est très difficile, hein, vous essayerez, avec un médicament pour une aspirine, voilà, quelque chose comme ça, d'ailleurs. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème, c'était que mes petits frères, ils avaient 4 ou 5 ans à cette époque, et eux, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à avaler le médicament, c'était trop dur. Pourtant, c'était quelque chose qui était pour leur sauver la vie. Mais quand il l'avait dans la bouche, il y avait une amertume incroyable. Et souvent le Seigneur permet qu'il y ait un mal, quelque chose de difficile qui monte jusque dans notre gorge pour nous faire ensuite du bien. Et pensez simplement au fait que Jésus est mort sur la croix et que quand on se met à la lumière de cette œuvre de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tout notre péché qui est en train de remonter à la surface. Et Dieu nous montre tout ce qui ne va pas dans notre vie. Quand on considère qu'un homme innocent, et juste, pur et sans tache est mort à la croix pour nos péchés, ben là on se sent pas bien. Il y a du regret, il y a de l'amertume, il y a toutes sortes de choses qui montent à l'intérieur. Et ça fait mal au cœur, et c'est normal que ça fasse mal. Mais le Seigneur ne veut pas se contenter que ces choses remontent à la surface, il veut les enlever totalement. Il veut, par son sang, nous purifier, et par sa grâce infinie, le Seigneur permet que par ce moyen-là, nous puissions être totalement libérés de ces choses. Oui, le Seigneur permet des temps difficiles pour que sa gloire soit manifestée. Et cet homme avait ses parents là, regardez ce que ses parents disent de lui. Ils disent, interrogez-le lui-même, au verset 21, il a de l'âge, débrouillez-vous avec lui. Nous on sait que c'est notre fils, ça c'est sûr. On sait qu'il était aveugle, ça aussi on en est sûr. Ils ne se mouillent pas beaucoup les parents. Par contre, si qui l'a guéri, ça on ne sait pas, et comment ça s'est passé, ça on n'en sait rien, voyez avec lui. C'est un grand garçon, il va vous répondre, il ne vit plus à la maison, on s'en occupe plus, donc débrouillez-vous avec lui. Pourquoi il faisait ça? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient pleins d'amour et d'attention envers leur fils? On voit bien que ce n'est pas ça qui les motivait. Ce qu'ils avaient peur, c'était de perdre leur place dans la synagogue, de perdre leur position dans la société peut-être, leur réputation, plutôt que de s'occuper de leur enfant, de prendre soin de lui. Et quand je lisais ce passage, je pensais à justement ce verset d'Ésaïe 49, verset 15, je le lis pour vous. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, c'est Dieu qui parle, moi je ne l'oublierai point. » Dieu ne nous oubliera jamais, Dieu ne nous rejettera jamais, même si notre famille nous rejette, même si les gens qui nous sont proches, ou peut-être nos amis, nous rejettent parce qu'on a développé la foi, on a cru en Jésus parce qu'il nous a guéri, il est intervenu, et c'était tellement magnifique qu'on était obligé de le partager, et que la famille ou les amis se sont retirés, Dieu ne nous abandonnera jamais, parce qu'il est toujours fidèle. Dieu ne détournera jamais ses regards de nous si on est dans la détresse. Ça, c'est notre Dieu. Il a toujours ce regard d'amour. Et pour les pharisiens, on revient à nouveau à cette deuxième discussion des pharisiens. Finalement, ils déclarent ce qu'ils avaient depuis toujours sur le bout des lèvres, c'est-à-dire que cet homme, c'est un pécheur. Autant les disciples, ils n'étaient pas trop sûrs de l'histoire. Ils ont demandé à Jésus de confirmer si c'était lui qui était pécheur ou ses parents. Autant les pharisiens, eux, ils étaient certains. Pour eux, c'était acquis que c'était un homme qui était né tout entier dans le péché. Et même alors qu'il a été guéri, c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi de le ressortir. Tu es né tout entier dans le péché. Voilà comment ils considèrent cet homme. Est-ce que c'est magnifique? Est-ce que cet homme, on voit qu'il a été intelligent, qu'il a reçu une parole de Dieu même pour les enseigner, est-ce que cet homme n'aurait pas pu leur répondre « Mais c'est vrai que je suis né dans le péché, tout entier. Ça c'est vrai, mais vous aussi, autant que moi. » Est-ce qu'il n'aurait pas pu leur dire? Ben oui, parce que c'était vrai. Cet homme est né tout entier dans le péché parce qu'il est simplement un être humain. Et tous les êtres humains, les pharisiens comme les autres, sont des hommes qui sont nés tout entiers dans le péché. La seule personne à qui on ne peut pas dire ça, c'est le Seigneur Jésus, qui était innocent, qui était pur. Et pour Jésus, au verset 35, nous voyons que cet homme qui était aveugle, cet homme qui était dans les ténèbres, dans l'obscurité depuis son enfance, il est devenu un adorateur en esprit, en vérité. Parce qu'on voit qu'au verset 38, je disais 35, mais c'est le verset 38, il se prosterna devant lui. La dernière chose qu'on sait de cet homme, la dernière chose qui est racontée de sa vie dans la Bible, c'est qu'il s'est prosterné devant Jésus. Est-ce que vous n'aimeriez pas que votre vie se finisse comme ça? Bon, et sûrement qu'il a dû continuer à vivre après, mais la dernière chose qui a été utile de raconter pour lui, c'est qu'il était en train de se prosterner. Et quand la Bible parle de se prosterner, c'est pas seulement de faire un acte physique, mais c'est le fait de rendre un culte à Dieu. Cet homme qui avait vécu tant de temps dans la misère, les pharisiens peut-être passaient à côté de lui, peut-être se moquaient de lui, les gens le raillaient, ses parents ne s'en occupaient pas. Jésus s'est arrêté, l'a guéri, et cet homme est devenu quelqu'un qui s'est prosterné. D'aveugle qu'il était, il est devenu adorateur. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur voudrait faire pour chacun de nous. Il voudrait que dans la situation qui nous touche en ce moment, si nous sommes aveugles, si nous ne savons pas où aller, il veut que ça soit une occasion, que sa lumière brille. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et on sait que le Seigneur n'est plus dans le monde et que c'est au travers de son Église qu'il désire briller maintenant. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes, nous tous qui sommes au Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Et ce soir, alors que nous sommes réunis ensemble, nous croyons que la lumière de Dieu peut briller dans les cœurs les plus obscurs, dans les situations les plus délicates et manifester sa grâce infinie et son secours incroyable. Ça, c'est ce que les gens ont dit de lui et c'est ce que Jésus a dit de lui aussi. Et je préfère retenir ce que Jésus a dit de lui, qu'il était un adorateur. Maintenant, comment cet aveugle a perçu le Seigneur Jésus? On voit que là, même s'il a été guéri immédiatement physiquement, au moment où il s'est lavé les yeux dans le réservoir, on voit que spirituellement, il y a une progression. On voit qu'il n'a pas compris tout de suite que, qui était le Seigneur Jésus. Au début, on l'a lu ensemble, hein, au début, au verset, je ne sais pas où mon chapitre, au verset 11, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Voilà ce qu'il pense de Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il a peut-être entendu parler de Jésus avant. On lui avait raconté peut-être un miracle ou un autre. Et il était là, il savait pas trop qui c'était. La seule chose qu'il connaissait, c'est qu'il avait entendu que Jésus lui avait parlé. Il avait obéi à ce qu'il lui avait demandé. Et le résultat, au-delà de ses espérances, il a été totalement guéri. Est-ce que si nous faisons ce que Dieu nous demande, est-ce qu'il ne va pas manquer de nous bénir? Je vous pose la question, mais la réponse, elle est évidente. Si nous obéissons à ce que Dieu nous demande. Et ce soir, Dieu, au travers de son esprit, nous montre ce dont nous avons besoin d'obéir, dans quel domaine. Mais si nous obéissons, est-ce que Dieu ne va pas manquer de nous guérir, d'ouvrir la porte, alors que la porte est fermée depuis longtemps et qu'on ne sait pas où aller? Le Seigneur va ouvrir la porte, simplement, si nous obéissons. Juste après, on voit qu'au verset 17, quand ils lui disent « Mais toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Et là, il a eu le temps de cogiter, cet homme. Il a eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Il a eu le temps de voir que tout ce qu'il lui a demandé, ça ressemble quand même aux histoires qu'il lisait dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes qui font toutes sortes de choses un peu bizarres. Il y a plein d'histoires. Il y en a un qui est resté couché un grand nombre de jours d'un côté, puis un grand nombre de jours, il s'est couché de l'autre côté parce que Dieu lui a demandé. Il y en a qui est allé voir un potier. Il y en a qui ont pris une corbeille. Il y a toutes sortes d'histoires. Quand on les lit comme ça rapidement, on ne comprend pas du tout ce que ça signifie. Et si on lit rapidement ce que Jésus a fait, on ne comprend rien du tout. Jésus, il crache dans la terre. Jésus, il prend la boue que ça a procurée, et puis il le met sur ses yeux, et puis il dit « va te laver là-bas ». Et puis, il fait toutes ces choses et il est guéri. Mais si Jésus a utilisé ces moyens, c'est pour nous donner un aperçu prophétique, justement, de son œuvre, l'œuvre qu'il allait faire au travers de la croix, parce que la salive qui sort de la bouche de Jésus, ça représente ce souffle divin qui vient s'associer à ce qui est terrestre, et ça donne le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que ça donne? La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, et il était même un serviteur, il était même quelqu'un qui, pas un homme simplement, mais un serviteur parmi les hommes. Est-ce que la boue, c'est quelque chose de glorieux? Est-ce que quand on gagne la coupe du monde, à ceux qui remportent la coupe du monde, on leur donne une coupe remplie de boue? Pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que la boue, c'est quelque chose que tout le monde dénigre. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qui est malheureux. Nos routes, avant on avait des routes, je parle d'avant, c'est il y a des siècles, hein. Je ne l'ai pas connu, je l'ai connu en Afrique. Mais il y avait des routes de terre, et quand il y avait la saison des pluies, bam, ça faisait de la boue. Voilà pourquoi partout ici, en France, on a des routes goudronnées pour éviter ce genre de désagrément. Parce que la boue, ce n'est pas intéressant. Et le Seigneur Jésus a choisi de donner cette image que lui-même s'est identifié à notre péché. Il a été fait péché, la Bible nous dit, pour que nous devenions justice de Dieu. Vous imaginez quand même la chose. Et non seulement ça, mais il s'est associé à la souffrance de cet homme. C'est-à-dire que la boue, il l'a appliquée à l'endroit où qui n'allait pas dans sa vie. Et Jésus, il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et au moment où il est allé se laver, il a obéi, il est allé à cette source, le réservoir de Siloé, au moment où il s'est lavé, il a été totalement guéri. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait au travers de sa croix. Et il veut que nous puissions nous approcher de lui et être goûtés à ce fleuve de vie qui nous apporte la vie, la guérison, la paix, la fidélité, toutes ces choses qui sont en abondance. Parce que quand le Seigneur donne quelque chose, il ne donne pas seulement quelques gouttes, mais il le fait avec abondance. Et au verset 33, vous avez remarqué, verset 33, il vient de finir, c'est la conclusion de sa prédication aux pharisiens. Vous imaginez quand même un homme qui est du peuple mendiant, qui commence à faire une prédication aux pharisiens, et puis quand on lit le message, on se rend compte qu'il était très inspiré. Très inspiré. Mais la conclusion, au verset 33, « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Vous ne savez pas d'où il vient. Moi, je sais d'où il vient. Il vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un homme pécheur pour la guérison. » Et regardez, pendant que je lisais ce passage, je pensais aussi à ce verset du psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. » Il a été attentif à la voix de mes prières. Psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Et c'est parfaitement biblique ce qu'il est en train de dire. Et les pharisiens devaient connaître ces versets. Et ça devait remonter à la surface aussi, ces versets, pendant qu'il leur parlait. Mais parce qu'ils étaient tellement attachés à leurs a priori peut-être, cet homme il est pécheur, attachés à leur religion, plus attachés à leur religion, à leur tradition, à leur sabbat, qu'au Dieu qui avait institué les choses. Et même ils avaient rajouté des commandements qui n'étaient pas dans la parole. Ils étaient plus exigeants que Dieu lui-même. Par contre, ils n'étaient pas exigeants sur les choses que Dieu attendait. Et le résultat, c'est que Jésus, à la fin, leur dit « Vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles sur les choses spirituelles. Et vous ne pouvez pas être guéris parce que vous croyez que vous voyez. » Ce soir, peut-être quelqu'un, et dans ce cas, il y a quelque chose qui l'aveugle dans sa vie. Peut-être qu'il a un doute qui est là et qui persiste dans son esprit, il n'arrive pas à s'en détacher et il ne veut pas venir à la parole pour voir ce que la Bible dit de ces choses. Peut-être que c'est une fausse doctrine, peut-être que c'est une pensée qui est mauvaise, peut-être que c'est un attachement à la religion, je viens à l'église régulièrement, mais je ne m'attache pas au Dieu qui a institué l'église. Je lis la parole, mais je ne m'attache pas au Dieu qui veut me parler au travers de sa parole. Peut-être que c'est ces choses, mais ces choses-là, ce sont des choses qui nous aveuglent, tout simplement. En tout cas, la dernière façon dont il a compris que Jésus, la dernière perception qu'il a eue de Jésus, c'était qu'il était le Fils de Dieu. C'est Jésus lui-même. Alors que les pharisiens, ses parents l'avaient abandonné, les voisins, il en est aux pharisiens, les pharisiens l'excluent de la synagogue, il est rejeté. Le seul qui fait l'effort de le chercher, c'est le Seigneur Jésus. Jésus, au verset 35, apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu à qui ? Au Fils de Dieu ?» Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Dernière révélation qu'il a de Jésus-Christ, et on voit que ses yeux spirituels ont commencé à bien s'ouvrir, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas seulement un homme qui s'appelle Jésus, il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement un envoyé de Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est une vérité que nous avons besoin de chérir dans notre cœur. Et à cause de cette vérité, cet homme, il a réagi de tout son âme, il s'est prosterné et il a dit « Oui, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu n'es pas seulement un homme, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour que mes péchés soient effacés, pour que ma vie puisse être totalement transformée. Voilà qui tu es. » Et ce soir, je vous pose la question pour finir. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui ? Peut-être certains vont dire, mais Jésus, moi, c'est mon sauveur. Et amen, merci Seigneur. C'est une grâce. Peut-être pour quelqu'un, il va dire, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est celui à qui j'obéis jour après jour, celui qui dirige ma vie. Peut-être quelqu'un d'autre va dire, moi, Jésus, c'est simplement quelqu'un qui m'a guéri un jour. Peut-être Jésus, pour vous, c'est quelqu'un dont on parle à l'église, mais vous ne connaissez pas plus que ça. Je vous dis ce soir, si vous placez votre foi, pas dans mes paroles, mais dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur Jésus est capable de vous sortir de la pire situation que vous pouvez confronter dans cette soirée, parce qu'il vous connaît parfaitement. Jean chapitre 9, verset 4, regardez ce qu'il est dit, je le répète ce verset, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus, alors qu'il a continué sa vie pendant quelques temps après ce passage-là, il a continué à bénir les personnes qui l'entouraient. Il a guéri des aveugles, des sourds, des boiteux, toutes sortes de personnes. Il a chassé les démons à certaines personnes qui étaient possédées. Ça, c'était pendant qu'il était jour. Mais il y a eu aussi une nuit. Il y a eu un moment où c'était la fin du temps du Seigneur sur la terre. C'est le moment où il est allé jusqu'à la croix. Et il a eu ce ministère de guérison pendant qu'il était jour, mais pendant qu'il était nuit, il a eu le ministère de la souffrance. Il a accepté de subir la souffrance, l'injustice, la haine, les crachats, toutes sortes de choses pour que nous puissions, nous, être justifiés. Et il n'a pas simplement accepté d'être envahi par la souffrance pour souffrir, mais c'est surtout, comme on l'a lu, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées sur la croix, déjà. Parce que sur la croix, j'ai fait un petit catalogue de tout ce qui s'est passé. Il y a une raison importante, la gloire de Dieu s'est manifestée, parce qu'il y a eu l'œuvre de subir la colère de Dieu qui est tombée sur lui pour que nous puissions obtenir le pardon de Dieu. Il y a eu cette œuvre d'éliminer la malédiction qui pesait sur nous à cause du péché, pour que nous puissions être bénis de Dieu, être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que c'est moi qui l'invente ? Ou est-ce que ce n'est pas marqué dans la Bible, justement, ces choses ? L'œuvre d'enlever la culpabilité et de nous proposer de la justification par la foi, simplement. L'œuvre de terrasser la mort et la douleur et la souffrance. Savoir qu'un jour, alors qu'on sera dans son ciel, comme le disait Jérémie, il n'y aura plus toutes ces choses. Les larmes, la peur, la crainte, toutes ces choses seront terrassées. Il y aura simplement la vie que Dieu veut nous donner. Dès ce soir, le Seigneur veut nous donner sa vie. Alors, ce soir, je voudrais finir en vous reposant cette question. Qui est pour vous Jésus ? Cet homme, il a grandi dans sa connaissance de Jésus. Jésus, c'était un homme simple, un prophète, un envoyé, puis après c'était le Fils de Dieu. À un moment donné, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Il y en a, ils disent, bah, « Tu es peut-être Jean-Baptiste ou Élie ou un des prophètes, on ne sait pas trop qui tu es. » Puis Pierre, il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ce soir, si quelqu'un par la foi saisit simplement cette vérité, que Jésus est le Christ et qu'il est vivant, s'il est le Fils du Dieu vivant, il est aussi vivant parce qu'il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau, ce soir, il vous regarde avec son regard de compassion, comme il a regardé cet homme. Il me regarde aussi, heureusement, et toujours avec ce regard d'amour et de compassion. Et si pendant une seconde, nous pourrions faire taire tous les bruits qu'il y a dans notre cœur qui résonnent, nous pourrions entendre l'Esprit de Dieu qui nous dit, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, regarde ce qu'il a fait sur la croix pour toi. Inclinons nos fronts et prions le Seigneur ensemble. Merci Éternel, merci pour le miracle de la vision qui a été retrouvée pour cet homme et le miracle de la vision qui a été retrouvée dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, le jour où nous t'avons fait connaître notre péché, le jour où nous avons saisi par la grâce ton salut, Seigneur, ton pardon, ta paix et toutes les choses qui ont germé dans notre cœur. Merci Éternel pour ce jour. Tu connais les personnes ce soir qui peut-être n'ont pas encore connu ce jour, qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, comme leur Seigneur éternel. Touche leur cœur dans ces moments par ta grâce infinie, par l'action de ton Saint-Esprit, l'action de ta parole aussi dans les cœurs. Seigneur, nous croyons que la foi peut germer, la foi peut être suscitée et que la foi en Jésus-Christ, c'est cette foi qui sauve. Merci de visiter chacun en particulier ce soir, de nous ouvrir les yeux à chacun d'entre nous, à l'endroit où nous en sommes avec toi et de nous permettre, Seigneur, d'avoir un attouchement de ta part, Seigneur, pour que nous puissions encore aller plus loin ce soir. Merci Éternel, merci parce que, oui, tu es ce Dieu qui guérit physiquement, nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons aussi que tu es capable de guérir moralement quelqu'un qui est affligé dans son âme, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur, qui n'arrive pas à pardonner. Seigneur, tu es capable de mettre un baume de guérison sur ce cœur aussi. Parce qu'à la croix, tu as pris tous les péchés, toutes les souffrances. Tu t'es fait un, Seigneur, avec le péché, pour que nous puissions être justice, Seigneur. Et nous voulons le saisir ce soir par la foi. Bénis, Seigneur, chacun des amis qui est présent ici ce soir, et permets que par ta grâce, nous puissions nous rapprocher de toi dans ces instants, Seigneur. Merci Éternel pour ta puissance, ta magnificence, ta sainteté qui nous interpelle encore ce soir. Merci parce que pour cet homme, tu t'es arrêté sur sa situation et tu l'as béni, Seigneur. Alors ce soir, arrête-toi sur nos situations et bénis-nous, Éternel. Amen.